Le 18-20 comme chaque soir, c'est d'abord ce que vous devez retenir de l'actualité de ce mercredi 14 juillet avec le journal de Mariam El Kurdi. Bonsoir Mariam.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel ce soir est en vert.
Oui, un plan climat proposé par la Commission européenne pour réduire les émissions de CO2 et lutter contre le réchauffement de la planète. Au menu notamment la taxation du kérosène pour les vols aériens au sein de l'Union européenne. Nous y reviendrons en détail dans ce journal. À la une également ce soir, le retour du défilé militaire du 14 juillet à Paris. L'hommage aux victimes de l'attentat de Nice, 5 ans après. La République ne cédera rien, a affirmé le Premier ministre Jean Castex. La mort de l'artiste plasticien Christian Boltanski, il avait 76 ans. Enfin, nous retrouverons Fanny Lechevestre à l'arrivée de la 17e étape du Tour de France. Le héros du jour s'appelle Tadej Pogacar.
À 18h15, un jour dans le monde, ce soir avec les protestations qui ont accompagné les mouvements sociaux de cette année. Et vous verrez que les choix des musiques qui accompagnent les cortèges viennent parfois de loin. C'est passionnant et c'est Cyril Sauvageau qui nous fera vivre tout cela. 19h20, c'est le téléphone sonne. Ce soir, vos ados partent en vacances tout seuls. Ben oui, les vacances avec les parents, c'est ringard. Et vous avez dit oui pour le camping avec les copains, mais avouez que vous êtes un peu stressé. Ou alors pour la première fois, vous partez avec le petit ami de votre fille qui a 17 ans ou l'inverse. Et là aussi, c'est gentiment la panique, mais au moins vous l'avez sous la main. Venez nous raconter tout ça, ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter.
La révolution verte donc à Bruxelles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Oui, avec un plan climat ambitieux. La Commission européenne propose une série de mesures pour atteindre l'objectif de diminution de 55% de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, parle d'un paquet climat historique. Angélique Bouin, vous êtes en direct de Bruxelles. Bonsoir.
Bonsoir.
Quelles sont les principales mesures ?
Eh bien, la Commission ne veut plus voir sortir une seule voiture polluante d'une usine à compter de 2035 et elle demande aux États membres d'installer des bornes électriques tous les 60 km sur les grands axes. Elle veut aussi taxer le kérosène pour les vols aériens intra-européens et le secteur maritime, gros pollueur. Les États membres sont invités ensuite à réduire drastiquement leurs émissions dans le secteur du bâtiment, l'agriculture, les déchets et les petites industries. En matière de réduction de consommation d'énergie, leurs obligations annuelles pourraient être multipliées par deux. Enfin, la Commission veut utiliser à fond le marché carbone qui instaure ce système de pollueur-payeur. Elle veut l'utiliser pour imposer une forme de taxe carbone à nos frontières, aux entreprises étrangères qui fabriquent certains produits, acier, alu, ciment par exemple, sans respecter nos normes. Et cela pour éviter une concurrence déloyale à nos entreprises, tout en les dissuadant de se délocaliser. Elle veut enfin étendre ce système dans l'Union au secteur des transports routiers et du chauffage, au risque tout de même de renchérir la facture de carburant, de fuel ou de gaz pour les ménages.
Alors, il s'agit bien d'une proposition législative qui doit encore être négociée avec les États membres et le Parlement, et certaines risquent d'être controversées. Qu'est-ce qui pourrait bloquer, Angélique ?
Eh bien, chaque proposition va être sous la pression des lobbies industriels et des États qui ont chacun des intérêts souvent très divergents. Mais c'est surtout celle qui pourrait toucher le portefeuille des ménages qui est très critiqué déjà par les ONG, des eurodéputés et dans de nombreux pays où l'on redoute un effet gilet jaune. La Commission propose pour l'éviter la création d'un fonds social climat doté de 10 milliards d'euros par an pour éviter une révolte sociale. Mais c'est politiquement explosif et cela pourrait à terme être abandonné sans perturber tout l'équilibre de ce vaste paquet législatif, me confiait une source européenne.
Merci Angélique Bois en direct de Bruxelles. Réaction d'inquiétude chez les professionnels des transports. La filière automobile s'inquiète d'un manque de bornes, de recharge et d'une transformation industrielle qui pourrait entraîner des pertes d'emplois. Le secteur aérien est vent debout. Dans un courrier à la Commission, 11 compagnies aériennes, dont Air France, KLM et la Fédération européenne des travailleurs des transports s'alarment d'une distorsion de concurrence. L'aérien représente 3% des émissions européennes. L'automobile, premier mode de déplacement des Européens, représente environ 15% des émissions de gaz responsables du réchauffement climatique. Les 12 mesures du plan climat de la Commission européenne, dossier à retrouver sur notre site internet franceinter.fr. Passe sanitaire dans une main, parapluie dans l'autre. On pourrait résumer ainsi le défilé du 14 juillet à Paris pour les milliers de personnes qui ont bravé la pluie et ne se sont pas laissées décourager par les restrictions sanitaires pour y assister. Le pass était obligatoire, tout comme le masque. Après une annulation l'an dernier, retour des troupes, des drapeaux, des blindés sur la célèbre avenue des Champs-Élysées. La cérémonie était volontairement tournée vers l'avenir malgré la pandémie et les défis qui attendent les armées françaises, Nathalie Hernandez.
Malgré une météo capricieuse, capricieuse et des nuages qui ont empêché le survol des ravitailleurs, la tradition a été respectée. Après les panaches tricolores des avions de la patrouille de France qui ont zébré le ciel parisien, honneur aux soldats de la force européenne Takuba. Ils ont ouvert le défilé à pied aux couleurs des 8 nations engagées au Sahel contre le terrorisme. Puis les écoles, dont celle d'Anastasia, une première pour la jeune fille de 20 ans.
C'est un immense honneur, c'est absolument incroyable d'être ici. C'est la fierté en fait de représenter l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air et de l'espace. Ce sentiment d'appartenance et de fierté, d'honneur que l'on ressent, c'est fou. Je ne saurais pas comment décrire encore mieux, mais c'est ça.
Coup de chapeau également aux sous-mariniers de l'Émeraude qui ont effectué 199 jours de mer dans l'Indo-Pacifique et à leurs collègues du Suffren, le dernier né des sous-marins d'attaque nucléaire. Ils espèrent, eux, partir pour une première mission l'an prochain. Enfin, l'avenir est bien sûr entre les mains de la jeunesse. 132 jeunes, dont des lycéens et des pompiers volontaires, ont chanté et esquissé quelques pas de danse pour l'animation finale.
Reportage Nathalie Hernandez pour France Inter à Paris.
La date du 14 juillet rappelle aussi, Mariam, un terrible souvenir.
Oui, l'attentat de Nice il y a tout juste 5 ans. Attaque au camion sur la promenade des Anglais après le feu d'artifice. 86 morts, plus de 200 blessés. Une ville traumatisée. 5 ans après, la ville rend hommage aux victimes avec une cérémonie à la Villa Masséna. Cérémonie en présence du Premier ministre Jean Castex.
Nice aurait pu douter, s'effondrer même sous la violence de ces coups redoublés. C'eût été mal la connaître. Car Nice, la résiliente, est parvenue à se relever. Les Niçoises et les Niçois ont fait preuve de cohésion, de solidarité, de fierté et de courage. Qu'il soit affirmé haut et fort que la République est plus déterminée que jamais, qu'elle ne cédera rien, que l'État républicain se battra sans relâche ni concession pour défendre ses citoyens et ses valeurs cardinales. Jamais nous ne céderons un pouce de terrain à ceux qui veulent semer les ferments de la division, de la haine et de la violence entre nous.
Le Premier ministre Jean Castex à Nice, 5 ans après l'attentat. 2 doses de vaccins sont indispensables pour protéger contre le variant Delta, déclaration de l'Agence européenne des médicaments qui appelle les États membres de l'Union à accélérer la vaccination. En France, plus de 2 millions de Français ont déjà pris rendez-vous sur Doctolib en vue de se faire vacciner depuis le discours d'Emmanuel Macron lundi soir selon la plateforme. Discours pour annoncer de nouvelles règles sanitaires pour faire face à la menace de la 4e vague. Parmi ces règles, le pass sanitaire obligatoire dès le 21 juillet pour accéder aux lieux de culture ou de loisirs où il y a plus de 50 personnes. Dès le mois d'août, le pass sera exigé dans les cafés, restaurants ou encore les centres commerciaux. Certains y voient une atteinte à la liberté. Plusieurs manifestations en France aujourd'hui, notamment à Paris, à Rouen ou encore à Marseille. Des milliers de personnes dans la rue parmi les slogans entendus contre la dictature, contre le pass sanitaire. Mais avant l'application de ces mesures, un avant-projet de loi présenté lundi prochain au Conseil des ministres. Il est soumis avant au Conseil d'État pour avis et le texte prévoit aussi une période d'isolement obligatoire de 10 jours pour toutes les personnes testées positives à la Covid. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Mariam.
C'est une nouveauté puisque jusque-là c'était une simple recommandation.
Oui, c'est un changement de cap. Le gouvernement veut désormais rendre obligatoire un isolement de 10 jours pour toute personne testée à la Covid-19. L'article 4 de l'avant-projet de loi prévoit qu'en cas de résultat positif, la personne testée serait placée à l'isolement dans le lieu d'hébergement qu'elle a déclaré au moment de l'examen. Un isolement strict avec interdiction de sortir sauf entre 10h et midi. Des aménagements sont prévus pour les mineurs et pour permettre la poursuite de la vie familiale. Alors comme il s'agit d'une privation de liberté, il faut le contrôle d'un juge. Le texte prévoit donc la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention. Alors les forces de l'ordre seront amenées à contrôler le respect de cette mesure d'isolement comme elles le font déjà pour les personnes non vaccinées qui arrivent en France en provenance de zones à risque. Mais cette fois donc, le nombre potentiel de personnes à contrôler serait bien plus important avec 6590 nouveaux cas de Covid-19 enregistrées ces dernières 24 heures, à la condition bien sûr que la mesure passe le filtre du Conseil d'État.
Merci Corinne Audouin du service police-justice de France Inter.
C'était un artiste autodidacte aux multiples casquettes.
Oui, Christian Boltanski est mort à 76 ans, on l'apprend ce soir. Il avait marqué le monde de l'art contemporain, notamment en 2010, lors de l'exposition Monumenta au Grand Palais avec sa spectaculaire installation Personne. Il se qualifiait lui-même de peintre, mais ses modes d'expression s'étendent à la photographie, la sculpture, le cinéma. Son portrait dans le journal de 19h et puis Christian Boltanski, l'artiste plasticien dans son atelier à Malakoff, près de Paris. Vous l'entendrez ce soir à 23h. France Inter rediffuse l'atelier de Vincent Josse. À l'étranger, l'Iran qualifie d'absurde et sans fondement l'annonce par la justice américaine de l'inculpation de 4 agents du renseignement iranien pour avoir planifié l'enlèvement d'une journaliste américaine d'origine iranienne aux États-Unis. Il s'agit de la militante féministe Mahsi Alinejad. Elle affirme sur la chaîne CNN qu'elle était menacée d'être enlevée depuis New York, où elle est désormais installée. Elle critique la politique de Téhéran. La parité entre les femmes et les hommes dans les instances dirigeantes des grandes entreprises au Royaume-Uni n'est pas attendue avant 2036, estimation du cabinet de conseil de Pipeline dans un rapport. Raison du retard, la pandémie. Un autre chantier au Royaume-Uni, la lutte contre le racisme. Le Premier ministre britannique Boris Johnson annonce son intention d'interdire de stade les supporters de foot qui ont proféré des insultes racistes en ligne contre des joueurs. 3 joueurs noirs de l'équipe d'Angleterre ont été visés par des attaques racistes sur les réseaux sociaux. C'était suite à la finale de l'Euro perdue par l'Angleterre contre l'Italie dimanche à Wembley. C'est l'une des étapes les plus difficiles du Tour de France. Départ de Muret en Haute-Garonne et arrivée au col du Portet à 2200 mètres d'altitude dans les Pyrénées. Bonsoir Fanny Lechevestrier.
Bonsoir Mariam.
178 km, 3 cols au programme de cette 17e étape et un héros ce soir, le Slovène Pogacar.
Ah oui, on a dès les premiers mètres d'ascension du col du Portet, on a senti qu'il la voulait, cette victoire. Il avait fait rouler ses lieutenants, comme on les appelle, ses coéquipiers. Et ensuite, eh bien, il n'a eu besoin de personne pour aller chercher cette victoire dans cette étape reine, effectivement, à 2215 mètres d'altitude. Victoire au sprint pour Tadej Pogacar, qui assomme un peu plus encore ce Tour de France. Il est, on voit plus comment une deuxième victoire d'affilée pourrait aujourd'hui lui échapper devant le surprenant Danois Vingegaard. Et en troisième position, on retrouve l'Équatorien Richard Carapaz. À noter tout de même, en ce jour de 14 juillet, une belle performance des Français. On retiendra notamment la quatrième place de David Godu, mais également la belle échappée de Dorian Godot et d'Anthony Pérez aujourd'hui.
Merci beaucoup Fanny Lechevestrier. La fête nationale ce soir, 14 juillet, qui dit 14 juillet dit feu d'artifice, mais aussi bal populaire pour les mairies. C'est un peu le casse-tête. Le pass sanitaire est exigé depuis le 9 juin dernier pour assister à des événements qui regroupent plus de 1000 personnes. Mais chaque commune a sa méthode pour le faire respecter, Sophie Potvin.
C'est le chiffre à ne pas dépasser.
On est à 999 personnes qui rentrent dans le parc.
Dans le village de Carros, près de Nice, le parc de 500 m² qui accueille les festivités du 14 juillet sera surveillé de près. Sylvie Bézier, responsable communication.
Il y aura beaucoup de services de sécurité, la gendarmerie, la police municipale très mobilisée. Donc voilà, on espère que tout se passe bien.
80 km plus à l'ouest, du côté de Sainte-Maxime, changement de stratégie. Une fois entré dans une zone dite de sécurité, qui comprend toute la plage du centre-ville et le bal populaire, plus de contrôle. Fabrice Gay, directeur communication de Sainte-Maxime.
Les gens, en fait, si vous voulez, ils viennent passer la soirée à la plage, en famille, vont faire un tour au bal, après ils retournent sur la plage. C'est vraiment un espace de libre circulation, donc à partir du moment où les gens sont dans la zone de sécurité et qu'ils ont le masque, ils peuvent accéder au bal.
Pour le petit village de La Croix-Valmer, juste à côté, la question ne se pose même pas. Christine Magret travaille à la mairie.
Les 1000 personnes, on n'y arrivera pas, je ne pense pas. Il va y avoir un comptage, mais je dirais à la volée. On n'a qu'une seule obligation. C'est celle-ci, le port du masque pour les plus de 11 ans.
Une organisation à l'allure de répétition avant la généralisation du pass sanitaire.
Sophie Potvin pour France Inter, le bal masqué pour certains, le concert pour notre concert de Paris avec l'Orchestre National de France, le chœur et la maîtrise de Radio France. Ce sera sous la direction de Simone Young à 21h15, suivi du feu d'artifice sur le thème de la liberté, Fabienne.
Eh bien, très bien, merci beaucoup Mariam El-Kurdi pour le journal. On se retrouve tout à l'heure
dans 20 minutes
sous les radars. Voilà, vous nous expliquez. expliquerait pourquoi c'est savoureux. Les filles au Royaume-Uni n'aiment pas qu'on les appelle Alexa. En tout cas, si les Alexa voudraient bien que d'autres changent de nom. Ce soir, avec Cyril Sauvageau, on parle de la bande-son des conflits mondiaux cette année. Puis en deuxième heure, je vous le remets dans l'oreille, le standard est ouvert pour vous. Les vacances de vos ados dans le téléphone sonne. Ils partent tout seuls pour la première fois. Ils ont promis d'appeler souvent, c'est vrai, vous avez confiance, mais enfin, ça vous stresse un peu quand même. Racontez-nous. Ou alors, vous êtes bien content qu'ils aillent faire du camping avec des amis. Ça va leur apprendre la vie aussi. Il est en colo, peut-être, mais 16 ans, la colo, c'est pas le jardin d'enfants. À vous de nous raconter tout ça au 01 45 24 7000. Allez, un œil sur le ciel, tout de suite.
La météo, avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Élodie Callac, bonsoir. Décidément, on n'en a pas fini. 11 départements en vigilance orange.
Oui, 11 départements sur le nord-est. Alors ce soir, cette nuit, les pluies peuvent être fortes hein, sur le Grand Est, sur la Bourgogne, sur la Franche-Comté, surtout sur les 11 départements en vigilance orange. Prudence, puisque des débordements de cours d'eau sont également à craindre. Alors demain, sur le nord-est, il restera encore de bonnes pluies hein, toute la journée. Sur l'est des Hauts-de-France, jusqu'au nord de l'Auvergne et de Rhône-Alpes, là, on aura quelques pluies seulement qui déborderont.
Et ailleurs, encore pas mal de nuages hein.
Surtout le matin, alors ils seront épais sur le sud-ouest avec quelques gouttes possibles, mais on a des éclaircies quand même qui reviendront. Elles seront plutôt belles l'après-midi, en particulier de la Bretagne et de la Basse-Normandie vers la côte Aquitaine. En Méditerranée, ce sera ensoleillé, toujours au prix du vent. Il fera encore frais l'après-midi, mais légère hausse appréciable malgré tout, avec 18 à 26 degrés attendus, pardon, et jusqu'à 25 à 29 en Méditerranée.
Élodie Callac de Météo France, merci beaucoup Élodie, à tout à l'heure après 19h.